DW. Le journal.
Bienvenue sur la DW dans la grande session d'information de ce mardi 11 mars 2025. Il est 17h en temps universel, 19h à Walikale dans l'est de la République démocratique du Congo. Walikale qui pourrait être la prochaine cible des rebelles du M23, des rebelles qui ont pris dimanche la localité de Niabiondo, provoquant la fuite de milliers de personnes. Au Niger, les recommandations des assises nationales ont été remises officiellement au général Tiani. Principale annonce, le maintien du régime militaire au pouvoir pendant au moins 5 ans, un véritable recul démocratique selon Maman Kakatouda de la société civile nigérienne. Américains et Ukrainiens sont réunis ce lundi en Arabie Saoudite. Ils vont tenter d'accorder leur violon sur un accord de paix dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il sera aussi question de ces femmes africaines qui préfèrent aller accoucher aux États-Unis afin d'offrir à leurs enfants la citoyenneté américaine. Donald Trump veut mettre un terme à cela. Georges Ibrahim Tounkara, ce micro, tout de suite le bulletin d'information et c'est avec vous Marco Volter. Bonsoir Marco.
Bonsoir à toutes et à tous. Après le fiasco de la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche fin février, Américains et Ukrainiens discutent actuellement en Arabie Saoudite des moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine. Des délégations des deux pays se trouvent à Jeddah alors que Kiev propose un cessez-le-feu partiel avec la Russie. Une idée que le secrétaire d'État américain Marco Rubio a jugée prometteuse. Pour le moment, peu à filtrer sur la rencontre. Les discussions se dérouleraient normalement et aurait débuté de manière très constructive, commente-t-on sobrement du côté ukrainien. Parallèlement à ce rapprochement, en France se retrouvait aujourd'hui en huis clos une trentaine de chefs d'état-major des pays prêts à contribuer aux garanties de sécurité en faveur de l'Ukraine en cas d'un cessez-le-feu. Ces pays font partie de l'Union européenne ou de l'Alliance de l'OTAN.
La réunion à Jeddah a débuté quelques heures seulement après une attaque sans précédent de l'armée ukrainienne en territoire russe.
Oui, une attaque de drone la plus importante depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle a notamment ciblé la région de Moscou et a fait au moins 3 morts. La capitale russe est à 400 km de la frontière ukrainienne. Des infrastructures pétrolières reliant la Russie à une partie de l'Europe auraient également été touchées. Le Kremlin affirme avoir abattu plus de 300 drones. Kiev affirme que cette offensive vise à inciter le président russe à accepter une trêve aérienne.
Il est en ce moment en route pour La Haye, aux Pays-Bas. Il s'agit de l'ancien président des Philippines.
Rodrigo Duterte a embarqué à bord d'un avion à destination de la Cour pénale internationale. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la CPI. Il a été arrêté par la police à Manille, la capitale des Philippines. L'ex-président de 78 ans est accusé de crimes contre l'humanité commis lors de la guerre violente et radicale contre le trafic de drogue lorsqu'il était encore au pouvoir. Les ONG estiment que des dizaines de milliers d'hommes, pour la plupart pauvres, ont été tués par des policiers et des groupes d'autodéfense dans le cadre de cette campagne anti-drogue lancée en 2016.
L'idée des centres de détention de migrants en dehors des frontières européennes continue à faire son chemin en Europe.
Oui, après des mois de tractations, la Commission européenne a dévoilé aujourd'hui ses propositions pour accélérer les expulsions d'étrangers en situation irrégulière. Ce sont les fameux hubs de retour réclamés par plusieurs pays. Actuellement, moins de 20% des décisions d'expulsion sont suivies d'effet au sein de l'Union européenne. L'enjeu des hubs de retour est d'y envoyer les personnes dont la demande d'asile aurait été rejetée et qui seraient dans l'obligation de quitter le territoire. Bruxelles ne prévoit pas d'ouvrir ses propres centres, mais compte créer un cadre légal pour que les États membres de l'UE puissent les ouvrir dans des pays tiers. Pour entrer en vigueur, cette proposition devra toutefois être approuvée par le Parlement européen et les États membres de l'Union.
C'est une élection qui serait certainement passée inaperçue sans Donald Trump.
Oui, au Groenland, les électeurs votent ce mardi pour des législatives qui pourraient déboucher sur un début de calendrier menant à l'indépendance. L'ombre du président américain plane au-dessus de ce scrutin depuis que Donald Trump convoite l'île arctique dont il voudrait s'emparer pour ses importantes ressources minières. Le Groenland est un territoire danois autonome, mais Copenhague continue d'y exercer les fonctions régaliennes comme la défense et la diplomatie. L'immense majorité de la population souhaite l'indépendance.
Enfin, le pape va mieux. François est déclaré hors des dangers.
Oui, après presque un mois d'hospitalisation, il a repris ses activités depuis sa suite d'hôpital. L'Argentin de 88 ans est de bonne humeur et devrait pouvoir retourner au Vatican dans quelques jours.
Le bulletin d'information, c'était Marco Volter qu'on retrouvera dans une dizaine de minutes pour parler cette fois, pour parler de paix entre Ukrainiens et Américains. Il est 17h05 en temps universel.
DW.
Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs est en tournée dans la région. Il a échangé hier avec le président congolais Félix Tshisekedi. Wang Tia est en tournée dans quelques pays de la région avant la tenue à New York le mois prochain d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée exclusivement à la situation de crise en République démocratique du Congo. Pour Wang Xia, il s'agit de rechercher une solution globale durable pour assurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. C'est ce qu'il a dit hier à l'issue de ses échanges avec le président congolais. Et sur le terrain, dans l'est de la République démocratique du Congo, la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo, l'AFC et sa branche armée, le M23 soutenu par le Rwanda, continuent leur progression dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Après la prise de la localité de Nyabiondo dans le territoire de Masisi dimanche dernier, les rebelles viennent de s'ouvrir la route vers Walikale, une zone stratégique notamment pour ses richesses minières, mais aussi parce qu'elle est une porte vers la ville de Kisangani, le chef-lieu de la province de la Tchopo. Au micro de Jean-Noël Bamouzé, Jacques Sinzaera, un expert de la région, estime que les rebelles du M23 ont désormais une perspective vers Kisangani et au-delà ensuite vers la capitale Kinshasa.
Dans tout ce chemin de Walikale, il n'y a pas de position de militaires. Après Kachebere, c'est directement Pinga. Et après Pinga, il y a Kibua. C'est une marche d'une journée, une nuit. Et directement, ils sont à Walikale.
Si on comprend bien, c'est donc Walikale qui est visé. Qu'est-ce qui expliquerait en fait l'importance du territoire de Walikale?
Walikale, pour le rebelle, c'est une zone stratégique. Walikale étant une zone minière, c'est une zone isolée où il y a une paix par rapport à la société minière Alpha Mine. Ils auront une facilité parce qu'après Walikale, il y a un très grand centre qui relie la Tchopo au Nord Kivu, qui relie la Tchopo au Maniema. Et directement, si tu es au Maniema, tu peux déjà atteindre le Sankuru, tu peux atteindre d'autres provinces voisines là-bas. Et voilà pourquoi le M23, comme ils ont trouvé une résistance au niveau des Kamagnons, là dans la plaine de la Ruzizi, ils ont maintenant dégarni leur position pour renforcer en fait de frapper Lubutu. Et de Lubutu, ils ont juste un plan de contourner par le fleuve pour encercler Kisangani à travers la rive gauche et se retrouver dans les Opala, sortir vers Lubunga. De Lubutu jusqu'à Kisangani, ils peuvent juste marcher pendant 4 jours et 4 nuits et ils atteignent Kisangani. Nous savons tous que Kisangani, sur le plan de la guerre, c'est une zone très stratégique. Si l'M23 arrivait à prendre Kisangani, moins de 2 semaines, ils sont déjà à Kinshasa.
Revenons un peu, une fois de plus, sur Walikale. Qu'est-ce qui explique l'importance du point de vue économique quant à Walikale?
Walikale, c'est une zone minière et par rapport au budget de la province, Walikale contribue beaucoup avec la redevance minière que paye Alpha Mine. C'est peut-être ça aussi que l'M23 vise parce qu'en ayant un gouverneur au Nord Kivu sans Beni Boutembo, sans Walikale, ça serait un échec. Et peut-être comme ils ont une difficulté de passer jusqu'à Boutembo, jusqu'à Beni, voilà pourquoi ils veulent maintenant prendre Walikale pour en fait bénéficier des redevances minières de Alpha Mine.
Quels sont les minerais qu'on retrouve à Walikale?
Il y a un scandale géologique. Il y a toutes sortes de minerais. Il y a les diamants, il y a l'or, l'or flamite, les cassitérites, il y a les cobalt, il y a les lithium aussi à Walikale.
Jacques Sinzaera, expert de la région des Grands Lacs, qui répondait aux questions de Jean-Noël Bamouzé. Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo provoque une pénurie de produits alimentaires à Kinshasa, notamment ceux en provenance de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, toujours occupé par les rebelles du M23. La fermeture des aéroports de Goma et Bukavu, dans le sud Kivu, a en effet bloqué l'approvisionnement en direction de la capitale congolaise, provoquant une hausse des prix. Les détails dans ce reportage de Merveille Hassani.
Goma est connu pour ses produits de qualité comme la viande de bœuf, les oignons, les pommes de terre et les haricots. Les marchés et boutiques de Kinshasa vendaient encore ces produits frais il y a peu de temps, mais désormais, ceux-ci deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Dans des boutiques spécialisées comme l'alimentation Yesuni Djibou, située dans l'ouest de Kinshasa, les rayons autrefois remplis de saucissons, fromages et autres produits de Goma sont désormais quasiment vides. Cette pénurie s'est traduite par une inflation qui fait fuir les clients. C'est ce qu'explique l'une des employées de l'alimentation qui requiert l'anonymat.
Par exemple, un kilo d'oignons qui était vendu à 6 000 francs congolais coûte maintenant 8 000 francs. De même, le prix des pommes de terre, autrefois à 6 000 francs, a grimpé à 9 000 francs congolais. Quant aux haricots, leur prix n'a pas vraiment augmenté car ils viennent de Kisangani où la situation est encore calme. Cependant, les recettes des ventes ont beaucoup changé.
En raison du conflit en cours, les transporteurs des nourritures sont obligés d'échanger des routes pour atteindre Kinshasa, ce qui augmente les coûts et par conséquent les prix pour les consommateurs. Certains habitants de Kinshasa, qui étaient habitués à s'approvisionner directement à Goma, doivent désormais se tourner vers d'autres produits frais, mais leurs prix sont plus élevés. C'est le cas de Cynthia Kaindo.
Je trouvais que c'était beaucoup plus sain et j'ai gagné aussi en termes d'économie. Parce que si je dois acheter les mêmes produits de Goma par les revendeurs d'ici, les produits coûtaient déjà beaucoup plus cher.
La restauration de la paix et la réouverture des aéroports sont indispensables pour garantir l'approvisionnement en produits alimentaires à des prix abordables. Si Kinshasa vit en paix, la capitale congolaise subit toutefois les conséquences négatives du conflit qui se poursuit dans l'est du pays. Merveille Hassani à Kinshasa pour la Deutsche Welle.
Quant au président congolais Félix Tshisekedi, il a revu la composition de l'Union sacrée, son hétéroclite plateforme de soutien, tout comme celle de son cabinet. Ce remaniement intervient dans un contexte de crise dans l'est du pays, ce qui suscite des réactions sur nos plateformes, des réseaux sociaux, Facebook notamment, Fiacre Ndairagije.
Tout à fait. Pour passer en goy, le président Félix Tshisekedi devrait d'abord se préoccuper du sort des militaires, car son pays a été envahi. Mais au lieu de cela, il se souci de sa famille politique et de son cabinet, critique et patient de Kinshasa. Et cela va se poursuivre de cette manière jusqu'au terme de son mandat en 2028, interroge Innocent Biamoni de Lubumbashi. Le fait de remanier son cabinet juste après une année témoigne de l'incapacité au sommet de l'État, pense-t-il.
Henri Ntcharé de Douala estime quant à lui que l'heure n'est pas à la politique.
Alors que les rebelles des M23 sévissent dans l'est du pays, le président se met à restructurer sa plateforme politique et décrit Henri Charré. Et si les rebelles semblent prendre le dessus, ce n'est pas la faute du président, observe Bienvenu Kégué de Parakou au Bénin. Selon Kégué, les militaires congolais n'ont pas suffisamment fait preuve de courage pour mettre les rebelles hors d'état de nuire. Et dans ce cas, il serait sage de passer le flambeau à quelqu'un d'autre, propose Innocent de Lubumbashi, car s'accrocher désespérément est la pire manière de conduire le pays dans le gouffre, conclut-il.
Fiacre, restez avec moi en studio, on vous retrouvera dans quelques minutes pour d'autres réactions consécutives à l'actualité développée dans nos journaux. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, il est 18h et bientôt 13 minutes, 17h et 13 minutes en temps universel.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Au Niger, le rapport final des assises nationales tenu fin février a officiellement été remis hier au chef du régime militaire, le général Abdourahmane Tchiani, qui doit désormais l'adopter. Parmi les principales recommandations de ces assises, le maintien du régime militaire au pouvoir pendant au moins 5 ans, renouvelable pour 5 ans en fonction de la situation sécuritaire ou de l'agenda de la Confédération des États du Sahel, dans laquelle le Niger est réuni avec le Mali et le Burkina Faso, deux pays également dirigés par des militaires. Autre recommandation, la dissolution des partis politiques actuels et l'élaboration d'une nouvelle charte pour leurs activités. Maman Kakatouda de l'association alternative Espace Citoyen rappelle que le général Tchiani, qui vient de se faire nommer général d'armée, s'était pourtant engagé à ne pas faire une transition militaire de plus de 3 ans. Les recommandations de ses assises sont donc pour lui un véritable recul démocratique au Niger.
Déjà, avec le coup d'État du 26 juillet, la démocratie est mise entre parenthèses parce que toutes les activités des partis politiques ont été suspendues depuis le 26 juillet à aujourd'hui. Et combien, près de 2 ans après le putsch militaire, combien nous parlait de la dissolution pure et simple des partis politiques et de la création d'une nouvelle charte des partis politiques. Mais tant que les acteurs politiques sont toujours en vie, ils sont là, je pense qu'on ne peut pas résoudre cette question en dissolvant les partis politiques. En tout cas, les mêmes acteurs vont se retrouver ensemble, ils vont créer d'autres partis politiques, ils vont s'affilier à d'autres politiques et rien ne va fondamentalement changer. Donc, cette question de dissolution des partis politiques pour, dit-on, conformer à nos vices, à nos réalités, coutumes et je ne sais quoi, c'est une manipulation pure et simple.
Alors, est-ce que les voix discordantes existent toujours au Niger, la liberté d'expression, et qu'est-ce que les hommes politiques peuvent faire dans ce cas avec ces résultats, ces recommandations des Assises nationales?
Écoutez, de manière générale, il y a une sorte d'auto-censure des Nigériens, que ce soit au sein des médias, que ce soit au sein des organisations de la société civile, que ce soit au sein de la classe politique de manière générale, il y a une sorte d'auto-censure. Aujourd'hui, dès que tu as une voix discordante, tu es vu comme un apatride, tu es un antinationaliste, tu es un anti-souverainiste, tu n'es pas un patriote. Donc, ce qui fait que les gens préfèrent vraiment se taire, et malheureusement, la nature a horreur du vide. Quand les intellectuels se taisent, quand les médias se taisent, quand les organisations de défense des droits humains et de la société civile se taisent, eh bien, ce terrain vide sera occupé par vraiment des gens venus de tous bords et des gens venus de sortis de nulle part.
Alors, mais face aux armes, que peuvent les citoyens? Que peuvent les hommes politiques?
Mais je pense qu'ils ne vont pas tirer sur tout le monde. Ce n'est pas parce qu'ils ont les armes, ils ont pris le pouvoir par la force. Il faut toujours libérer l'espace civique parce que de la contradiction jaillit sur la vérité. Les critiques que nous faisons, c'est pour pouvoir améliorer les choses. Il faut que les gens puissent dire leur opinion et je pense qu'on peut en tirer bénéfice.
Maman Kaka Touda de l'association Alternative Espace et Citoyens que j'ai joint en début d'après-midi. Et toujours au Niger, une pénurie de carburant affecte l'ensemble du territoire, plongeant les habitants dans un désarroi total. Cette pénurie vient s'ajouter à une inflation qui rend le quotidien des Nigériens difficile. Mais le manque de carburant pour les véhicules automobiles est un paradoxe dans un pays qui est producteur de pétrole depuis plus d'une décennie. Explication Relu Koubakin.
C'est le désordre qui règne depuis plus d'une semaine dans les quelques rares stations-service de Niamey qui arrivent encore à s'approvisionner. Le pays fait face à sa plus grande crise depuis 2011, année où le Niger est entré dans le cercle des pays producteurs de pétrole. Une pénurie sans précédent qui empêche beaucoup de Nigériens d'utiliser leurs véhicules pour se déplacer, ce qui suscite une mauvaise humeur au sein de la population. Ibrahim Abdou, un automobiliste, exprime son indignation après avoir fait le tour de plusieurs stations.
Actuellement, je suis à ma troisième station d'essence. Le matin de 10h jusqu'à midi, j'étais dans une station. À peine arrivé à moi, le carburant était fini. Après, on est parti vers Collège Mariama, encore c'était le cas. Là-bas, il y a eu beaucoup de tensions, le gérant était obligé de fermer. Ce n'est pas normal pour un pays qui est producteur de pétrole.
D'une production de 20 000 barils par jour en 2011, le Niger est passé aujourd'hui à 110 000 barils par jour, dont 90 000 sont exportés vers le Bénin, où le pétrole est chargé ensuite sur des navires. La consommation nationale est d'environ 7 000 barils par jour. Malgré tout, la société nigérienne de pétrole, la SONIDEP, n'arrive pas à satisfaire la demande. Amidou Abdoulaye est conducteur de taxi. Il s'interroge sur les raisons d'une telle situation.
Je suis ici à la station depuis 2 heures de temps. Je n'ai pas pu prendre l'essence. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème de pénurie là?
La SONIDEP affirme que la pénurie actuelle est la conséquence de la lutte contre la contrebande de carburant, notamment en provenance du Nigeria, et d'une production insuffisante par la société de raffinage des Indes. Mais les Nigériens ne comprennent pas pourquoi leur pays est notamment dans l'obligation d'importer de l'essence pour satisfaire la demande domestique. Abdoulaye Djibo est un autre automobiliste rencontré dans une station-service.
Pourquoi ce dysfonctionnement? Jusqu'à aller importer du pétrole, non, c'est pas normal. Il faut communiquer avec le peuple, dire ce qui ne va pas et ce qui va. Voilà, tant qu'il n'y a pas la communication, les gens restent dans le flou.
Sur les réseaux sociaux, les critiques dénoncent une mauvaise gestion du secteur du pétrole au Niger, mais les informations qui circulent comme souvent ne sont pas vérifiables.
En plus bref, à présent, au Sénégal, l'Assemblée nationale a voté ce mardi à l'unanimité la loi autorisant le président de la République à ratifier la convention entre le Sénégal et le Maroc sur l'assistance aux détenus et le transfèrement des condamnés, défendue par la ministre des Affaires étrangères. Cette loi, examinée en plénière après un passage en commission, marque une étape clé dans la coopération judiciaire entre les deux pays. Et le gouvernement sénégalais s'est dit indigné des traitements subis par ses ressortissants migrants en Mauritanie voisine ou une campagne visant les candidats à l'émigration fait des remous.
Mon Dieu, qu'est-ce que c'est?
Learning by ear. Contrôle le numérique.
C'est un tremblement de terre. Oh non!
Trois cousins sont, comme tous les jeunes Africains, confrontés aux dangers et opportunités du monde numérique. Fact-checking, santé mentale et protection des données, autant de thèmes au cœur de leurs aventures dans
Contrôle le numérique
sur la DW.
Sur la DW, il est 17h20 en temps universel. Nous protégerons tout le territoire du Soudan du Sud comme si c'était le nôtre. C'est en substance le contenu de la déclaration du général Muhoozi Kainerugaba, le chef des armées ougandaises, s'exprimait aujourd'hui sur le déploiement des forces spéciales ougandaises à Juba, au Soudan du Sud. Les propos du général ougandais, le fils du président Yoweri Museveni, ont suscité des réactions sur nos plateformes fiacres.
Tout à fait. La déclaration pleine d'arrogance du général Muhoozi Kainerugaba n'étonne personne, dit Blaise de Goma dans l'est de la RDC. Il est bon de faire preuve de courage en tant que général, mais quitte à ne pas sous-estimer d'autres, suggère Blaise. Vini, Jean-Jacques ainsi que Brian Lowe et tous de Kinshasa partagent également cet avis. Le général Muhoozi se prend pour un immortel, disait-il. Pour Benny Camille de Chikapa à Kananga, il serait prudent de ne pas accorder de l'importance aux propos de Muhoozi.
En revanche, dit Michel de Lumumbashi, trouve normal que l'Ouganda s'y mixe sensiblement dans la vie politique au Soudan du Sud.
Oui, car le président Museveni a joué un rôle de premier plan pour aider le Soudan du Sud à aboutir à un accord de paix en 2018, rappelle Eddie Michel de Lubumbashi. Le général Muhoozi veut s'affirmer en tant que digne successeur de son père, Yoweri Museveni, constate Henri Charest de Douala. Pour ne citer que ces quelques cas, il faut rappeler que le fragile accord de paix et de partage de pouvoir signé en 2018 entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar est menacé par de nouveaux affrontements, dont ceux qui se sont déroulés vendredi dans l'état d'eau du Haut-Nil, dans le nord-est du pays.
Merci à vous, fiacre, et excellente soirée. Autre conflit, celui en Ukraine, on vous en parlait dans le Flash Info, l'Ukraine et les États-Unis discutent en Arabie Saoudite, plus précisément à Jeddah, au bord de la mer Rouge. C'est la première rencontre entre des délégations américaines et ukrainiennes depuis la visite de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Le président ukrainien propose un plan de cessez-le-feu partiel avec la Russie. Il est arrivé hier en Arabie Saoudite, devenu en peu de temps pays médiateur dans la guerre en Ukraine. Marco Walter.
Le prince héritier Mohamed Ben Salman, jadis qualifié de paria par l'administration américaine, qu'il accusait d'avoir validé l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018, semble définitivement redevenu fréquentable. Fini l'isolement de Riyad sur la scène internationale, mieux, comme lors de son premier mandat, le président Donald Trump a annoncé avoir réservé à l'Arabie Saoudite sa première visite d'État à l'étranger. Le pays s'est imposé comme une plateforme de dialogue qui cherche à parler à tout le monde et, dans le cas de l'Ukraine, de rester neutre avec d'un côté une absence de sanctions contre Moscou et de l'autre de l'aide humanitaire pour l'Ukraine. L'an dernier, Riyad a aussi contribué à faciliter un échange historique de prisonniers entre la Russie et les États-Unis. En plus de faciliter les pourparlers sur l'Ukraine, Riyad a accueilli les sommets de la Ligue arabe pour élaborer des tentatives de réponse au conflit au Soudan et sur l'avenir de la bande de Gaza. Justement, l'Arabie Saoudite voudra certainement profiter de ce rôle de médiateur sur l'Ukraine pour obtenir un infléchissement de Donald Trump sur la bande de Gaza, alors que l'Arabie Saoudite et la Ligue arabe refusent le plan américain de vider l'enclave palestinienne de ses habitants. Enfin, à peine Donald Trump investi fin janvier, Mohamed Ben Salman s'était empressé d'annoncer des investissements de 600 milliards de dollars aux États-Unis sur les 4 prochaines années. Le royaume saoudien veut transformer son économie pour devenir moins dépendant du pétrole. Et dans cet objectif, diplomatie et business semblent intimement liés.
Rendons-nous à présent aux États-Unis. Depuis le 20 janvier dernier, une mesure signée par le président Donald Trump fait polémique. Le décret restreint le droit du sol garanti par le 14e amendement en privant des citoyennetés les enfants nés aux États-Unis des parents en situation irrégulière ou temporaire. Le débat actuel sur cette législation suscite des questions sur les pratiques migratoires, notamment celles des femmes africaines venant accoucher aux États-Unis. Les explications de notre correspondant à New York, Jean-Claude Abalo.
Cette pratique, souvent associée à une élite fortunée, ne se limite pourtant pas à ce cercle restreint. Certaines femmes choisissent les États-Unis comme lieu d'accouchement afin d'offrir à leurs enfants la citoyenneté américaine, perçue comme un atout stratégique. Mireille, une entrepreneure béninoise ayant accouché à Houston, témoigne.
C'est un choix que nous avons fait il y a 7 ans, d'offrir à notre enfant les meilleures opportunités possibles. L'éducation et la mobilité internationale sont des avantages incontestables de nos jours. Nous envisageons d'y retourner très bientôt pour la naissance de sa petite sœur. Mais la mauvaise nouvelle est tombée en temps et on espère que ça ne dure pas.
Cette pratique concerne également des femmes vivant aux États-Unis ou confrontées à des situations imprévues. Amina, une mère d'origine gabonaise résidant à New York, raconte.
Il s'est avéré que pour des raisons de santé compliquées, ce choix-là s'est imposé à moi et je n'ai pas pu retourner en Afrique pour mon accouchement. Il ne s'agissait pas d'une volonté personnelle, mais d'une situation qui a évolué de manière inattendue à cause des situations de santé compliquées. Finalement, mon fils est né ici.
Contrairement aux idées reçues, toutes les femmes africaines accouchant aux États-Unis ne bénéficient pas de moyens financiers importants. Certaines, comme Chioma, une Nigériane employée dans un restaurant à Washington, accouchent simplement parce qu'elles vivent et travaillent déjà sur place.
Ce n'était pas une stratégie. Mon enfant est né ici parce que c'était ma réalité.
Le décret de Donald Trump reflète la volonté de certains courants politiques de restreindre l'accès à la citoyenneté par la naissance. Cette mesure aurait potentiellement concerné 150 000 nouveaux-nés chaque année, risquant de rendre certains enfants apatrides. Cependant, les analystes rappellent que le phénomène des femmes africaines venant accoucher aux États-Unis reste marginal par rapport au nombre total de naissances. Les motivations sont souvent plus complexes qu'une simple recherche de passeport. Alors que le droit du sol reste suspendu aux décisions judiciaires, de nombreuses femmes africaines naviguent entre espoir et incertitude, convaincues que, malgré les débats politiques, leurs enfants auront une chance unique dans un monde globalisé. Jean-Claude Abalo à New York pour la Deutsche Welle.
Je précise que le décret de Donald Trump a été bloqué par deux juges fédéraux puisque le droit du sol est inscrit dans la constitution américaine. Un mot de la Somalie avant de passer au sport. En Somalie, une attaque à suicide revendiquée par l'Al-Shabaab a fait 9 morts ce mardi dans un hôtel du centre du pays où se tenait une réunion sur la lutte contre ce groupe radical. C'est ce qu'ont indiqué des sources sécuritaires.
DW Le sport. Ali Fahad.
Une page sport consacrée au football. Ce soir débutent les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Ali Fahad.
Avec le FC Barcelone qui s'apprête à recevoir Benfica, fort de son succès 1-0 à Lisbonne la semaine dernière, le Barça veut confirmer pour se qualifier en quart de finale et ainsi maintenir le rêve d'un triplé Liga, Coupe d'Espagne et Ligue des Champions encore bien réaliste. Une rencontre quelque peu spéciale pour les hommes de Hansi Flick qui intervient quelques jours seulement après le décès de Carles Minaro Garcia, le médecin du club décédé le week-end dernier pendant son sommeil lors d'une sieste après le déjeuner avec les joueurs. Barcelone-Benfica, coup d'envoi prévu dans quelques instants à 17h45 TU. Ce soir, le Bayer Leverkusen va accueillir le Bayern Munich. Défait 3-0 la semaine dernière, les hommes de Xabi Alonso tenteront de réaliser un exploit sans Florian Wirtz. En effet, le virtuose s'est blessé en Bundesliga face au Werder Bremen suite à un tacle très appuyé de Mitchell Weiser. En dépit de cette perte immense pour le Bayern, le défenseur Jonathan Tah veut y croire.
Dieu merci, sa blessure n'est pas aussi grave que celle qu'il a subie il y a 3 ans. Comme le coach l'a dit, cette rencontre sera un gros test pour nous. Nous devrons prouver que nous sommes une équipe. Tout le monde sait que Flo est un joueur important capable de faire la différence, mais nous allons devoir faire sans lui. Nous jouerons clairement pour lui et nous ferons en sorte d'être toujours en course en Ligue des Champions quand il reviendra.
À suivre également le choc entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Battu 1-0 à l'aller au terme d'une rencontre qu'ils ont largement dominée, les Parisiens veulent tout de même croire à la qualification. Ce sera néanmoins compliqué à Anfield. En effet, les Reds ont gagné tous leurs matchs à domicile cette saison, à l'exception de 2 matchs nuls face à Fulham et Manchester United, et une défaite face à Nottingham Forest lors de la 2e journée de Premier League. Enfin, l'Inter Milan recevra Feyenoord et tentera de capitaliser sur sa victoire 2-0 à l'aller à Rotterdam et ainsi se qualifier pour les quarts de finale pour la 2e fois en 3 ans. Inter-Feyenoord, tout comme Liverpool-PSG et Bayer Leverkusen-Bayern Munich, ce sera à partir de 20h en temps universel.
Un mot du Tchad avant de retrouver nos magazines. Le gouvernement tchadien a pris ses distances ce mardi avec une recommandation visant à protéger les femmes en cas de divorce. Une recommandation qui a suscité des vifs débats dans la presse et sur les réseaux sociaux. Cette recommandation portée par la ministre d'État en charge des femmes proposait d'introduire une loi stipulant qu'en cas de divorce non motivé, le domicile conjugal revient à la femme et aux enfants. Il s'agit d'une simple recommandation émanant d'un travail collectif dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne et non d'une décision étatique, a précisé le porte-parole du gouvernement dans un communiqué. Par conséquent, cette recommandation n'engage en aucune manière le gouvernement, a-t-il souligné tout en appelant à la sagesse et à la retenue. 17h30 en temps universel, Sandrine Blanchard s'installe pour Droits et Libertés.